vous parle des 93 milliards d'euros que la Commission européenne s'est dite prête lundi dernier à réclamer aux États-Unis si jamais Donald Trump décidait de taxer l'Europe à hauteur de 30%. Alors, je vous rassure, rien n'est encore appliqué, enfin je rassure surtout les États-Unis. Le commissaire européen en charge du dossier entend poursuivre les négociations jusqu'au 1er août, la date butoir choisie par le président américain. Mais Shane Valley, est-ce que cette fois l'Europe sort les muscles? Est-ce que 93 milliards d'euros, ça peut faire peur à Donald Trump ou au contraire exciter sa colère?
Ça n'a pas vraiment l'air de l'inquiéter. Mmh. Et en réalité, la stratégie de négociation des Européens depuis le début ne l'inquiète pas véritablement. On a eu plusieurs opportunités de mettre une réponse plus musclée sur la table et à chaque fois, on ne l'a pas saisie. Et même aujourd'hui, on a vu quelques débats émerger entre les Européens, notamment sur l'activation de cet instrument anti-coercition dont Jean-Luc parlait. Et pour le moment, il n'y a pas de consensus européen pour ce faire. Donc non, moi je crains que l'Europe reste avec une main qui tremble et que notre partenaire ou notre adversaire l'observe bien et du coup en tire parti.
Alors Elie Frédéric, pourquoi
tout ce qu'il exacte? C'est-à-dire qu'on représente un ensemble plurilatéral, on représente une machine légale à produire des réglementations, un modèle démocratique qu'il est en train de construire aux États-Unis. Il faut bien voir que derrière cette guerre commerciale, en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus politique. C'est-à-dire qu'il est en train de viser une fragmentation de l'Union européenne. Il veut accéder au marché européen, ça c'est certain. Oui. Mais il est en train de... ne serait-ce que la façon dont il soutient déjà dans les campagnes électorales successives qu'il y a dans les États membres, les extrêmes droites qui sont alignées plus sur sa ligne MAGA, il y a vraiment un travail de changement de régime qu'il est en train d'amorcer dans l'Union européenne, de SAP, et de volonté d'aligner l'Union européenne comme d'autres pays, on peut dire, de ce qui était l'ensemble occidental, dans un jeu d'influence anti-chinois. Et dont on va voir les contours de plus en plus évidents au-delà des droits de douane, c'est-à-dire en imposant une réciprocité dans les mesures anti-chinoises de celles qui sont adoptées aux États-Unis.
Certes, on a un excédent commercial très important vis-à-vis des États-Unis, c'est un fait. Et il s'est accru en 2024 à cause de la réévaluation du dollar, qui maintenant est à la baisse. Mais si on prend en compte les services sur lesquels ils ont un excédent farmineux avec nous,
et il faut bien sûr... Exactement, on va prendre ces chiffres, vous avez raison, ça rééquilibre dans l'autre sens.
50 milliards, ça fait plus que 50 milliards.
Exactement, ils nous battent sur les services.
Et si vous prenez en compte la définition au sens de balance courante, c'est-à-dire ce qu'on appelle les revenus primaires, c'est-à-dire les revenus des entreprises américaines en Europe, et vice-versa pour les entreprises européennes aux États-Unis, si on prend ce bilan, on est à zéro, on est à l'équilibre. On est à l'équilibre. Donc, je dirais, c'est un prétexte. En réalité, la balance commerciale des États-Unis, elle est déséquilibrée et ça n'a rien à voir avec les tarifs. Absolument rien.
Donc, c'est politique. Les tarifs.
La balance commerciale des États-Unis est déséquilibrée tout simplement parce que les Américains n'épargnent pas assez et qu'ils consomment trop. Et qu'en plus, ils en rajoutent avec des déficits publics faramineux de 7% du PIB.
D'accord.
Et donc c'est ça qui crée la balance commerciale déficitaire des États-Unis. Mmh. Les tarifs, il peut mettre tous les tarifs qu'il veut, ça ne va rien changer.
Mmh. Et pourtant, qui me semble risqué parce que à la fois il essaie d'améliorer la compétitivité américaine en imposant ses tarifs douaniers et en même temps il déconstruit ce qui faisait le cœur de la compétitivité américaine, c'est-à-dire la règle de droit, le respect du climat des affaires et le respect des investisseurs comme des investisseurs internationaux. Et ça, c'est en train de disparaître complètement. Donc moi, je doute beaucoup que énormément d'entreprises, malgré les déclarations qu'on a pu entendre d'entreprises européennes comme d'entreprises asiatiques, promettant des investissements gigantesques aux États-Unis, je doute beaucoup que ça se produira. Et donc je pense que ce pari économique risqué sera in fine perdu.
Et pourtant, revenus extérieurs. Et il faut bien voir que là, les droits de douane sont tellement importants, déjà, ceux qui sont déjà appliqués, que les entreprises ne peuvent pas les absorber. Et elles répercutent le coût sur les consommateurs. Mais il va y avoir un délai, parce que dans les pauses aussi tarifaires, il y a eu un pic d'importation pour constituer des stocks. Et les entreprises estiment que c'est à partir de début 2026 qu'on sentirait véritablement les effets de l'inflation avec cette augmentation du coût pour le consommateur. Alors là, il y a beaucoup de publicité faite autour de ces et quelques 50 milliards. Mais ce n'est pas ça qui va ça sert à Donald Trump à justifier qu'il a pu baisser les impôts et pour financer ces baisses d'impôts. Mais en tout cas, pour ce qui est du volet justement industriel, il n'a aucun sens de la politique industrielle.
Non,
l'écosystème de ce qui permet de reconstituer des chaînes de valeur aux États-Unis est beaucoup plus complexe. Et on voit actuellement les entreprises qui sont beaucoup en qui restent en position d'attentisme. Et qui n'investissent pas tant que ça, entre les promesses et les investissements.
Mais c'est ça aussi, ça l'a voir. Je suis d'accord avec Kéjir, ça va prendre un peu de temps, mais on commence à le voir déjà, les premiers chiffres le montrent. C'est un effet récessif, ça, on le verra, on ne le voit pas encore, mais ça c'est absolument évident. Et la réindustrialisation et même la correction de la balance commerciale sont des objectifs légitimes, mais les instruments utilisés n'ont absolument aucun effet ou un effet contre-productif.
Oui, d'accord.
L'image, hein, Donald Trump avec son panneau l'affichant fièrement, et ça avait donc provoqué une onde de choc sur les marchés. Le Nasdaq a plongé de 16% en 3 séances, le CAC 40 de 14% en 5 séances. Vous le savez sûrement mieux que moi que les marchés détestent l'incertitude, d'où leur fébrilité. Sauf que depuis, ils se sont en quelque sorte accoutumés aux différents nombreux volte-face du président américain. Il y a même un mot qui est devenu à la mode à Wall Street, taco. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, taco? Alors, déjà, c'est un éditorialiste du Financial Times qui a inventé cette expression au mois de mai. Que signifie taco? Ce sont les initiales de Trump always chickens out. Traduction, Trump se dégonfle toujours. Écoutez la réaction du président américain. Il était piqué au vif lors d'une conférence de presse fin mai.
I kick out. You mean because I reduced China from 145% that I set down to 100 and then down to another number, and you call that chickening out? It's called negotiation.
Alors, Donald Trump se dégonfle-t-il ou est-ce une vraie stratégie de négociation? Toujours est-il que, grâce à cette théorie du taco, eh bien, les marchés se calment en quelque sorte. Dernier exemple en date, quand Donald Trump lance samedi dernier son nouvel ultimatum à l'Europe, les bourses restent presque stoïques à leur ouverture lundi. Seulement moins 0,27% à Paris, moins 0,39% à Francfort. Et aux États-Unis, le Nasdaq est resté à l'équilibre toute la journée à 0,16%. Une vallée, est-ce que ça ne veut pas dire que face à ce qui se passe, à cette stratégie un peu de fou de Donald Trump, la bourse ne joue plus justement son rôle de garde-fou?
Non, c'est juste, et je pense que c'est très inquiétant dans cette dernière annonce, c'est de voir que les marchés sont restés relativement stoïques, et les marchés sont malheureusement, à mon sens, peut-être la seule corde de rappel véritable qui peut être efficace face à Trump. Elle avait été efficace entre le 2 et le 9 avril, le moment de la pause généralisée, et en fait, il s'est rendu compte depuis que non seulement la bourse a recoupé toutes les pertes entre le 2 et le 9, mais qu'aujourd'hui, elle continue de monter, et donc il peut se permettre de nouvelles tentatives et de pousser un peu les choses à son avantage. Et donc moi, j'aurais aimé presque qu'il y ait une réaction plus vive des marchés financiers en espérant que ça pousse l'administration Trump à se retenir un peu. On n'a pas ça aujourd'hui. Je pense que ça nous affaiblit, nous, beaucoup, Européens, dans notre négociation avec les Américains, puisqu'ils se disent, finalement, les marchés restent stoïques et donc on peut pousser notre avantage un peu plus loin.
Une sorte d'habitude, l'Organisation mondiale du commerce, aujourd'hui, l'Organisation mondiale du commerce ne sert plus à rien, donc ?
C'est pas tout à fait exact. En réalité, il y a toujours un mécanisme de règlement des différends. Et l'Union européenne a réussi à maintenir un organe d'appel alternatif où sont aujourd'hui 57 membres, dont la Chine, pour remplacer l'organe d'appel que les États-Unis ont tué parce qu'ils ont refusé de renouveler ses membres. Et donc les États-Unis n'ont plus rien à craindre de l'OMC. Lorsqu'ils sont condamnés à l'OMC, ils l'ont déjà été condamnés sur l'acier, sur la sécurité nationale, il suffit qu'ils aillent en appel dans le vide.
D'accord.
Et donc dire que l'OMC ne sert plus à rien, c'est pas tout à fait exact. C'est affaibli, mais...
Affaibli.
Et les liens transatlantiques qui avaient commencé en 2013, qui ont été suspendus en 2016, le fameux TTIP,
oui.
TTIP, et ça avait, l'objectif, c'était justement de créer des standards transatlantiques ensemble, de s'aligner sur un certain nombre d'objectifs. Et même sous la présidence de Biden, il y a eu un conseil de technologie et de commerce dans lequel on retrouvait à l'agenda toute une série d'enjeux qui concernaient la Chine. La résilience des chaînes de valeur, la dépendance à la Chine sur les minerais critiques. Et il n'y a pas eu d'avancée. Il n'y a pas eu l'appétence qu'il fallait pour avancer sur ces questions-là.
Mais en tout cas, d'après vous, on aurait gagné à se serrer les coudes contre la Chine ?
Tout à fait, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Union européenne considère la Chine comme un rival systémique, également comme un partenaire et un concurrent. Mais là, le fait que la Chine soutienne autant l'économie russe fait qu'aujourd'hui, ça l'a poussé quand même dans l'angle du rival systémique. Et si aujourd'hui, Trump pourrait nous inciter à nous rapprocher de la Chine, à vrai dire, les Européens sont dans une double situation de ce qu'on appelle de-risking, réduire les risques, les dépendances excessives, à la fois sur les biens venant de Chine et sur les services vis-à-vis des États-Unis. Parce que nous découvrons qu'aujourd'hui, notre dépendance aux services américains financiers, mais aussi numériques, cloud et autres, devient un problème.
Non. Alors, on a dit qu'il va un peu plus loin que ça. C'est-à-dire que c'est non seulement 10% sur tous les biens, c'est un quota assez limitant sur l'export de véhicules. Et c'est surtout, et c'est là que le bât blesse à mon avis, c'est surtout le fait d'accepter toutes les provisions américaines en matière de sécurité, ce qui veut dire contraindre énormément l'économie britannique dans ses relations avec le reste du monde et notamment avec la Chine. Et donc je pense qu'on présente souvent un peu rapidement l'accord britannique comme un accord très favorable parce qu'on retient ce 10%, alors qu'en réalité, si l'Union européenne venait à signer un accord de cette nature, ça contraindrait énormément nos relations économiques avec la Chine. Donc moi, je pense pas du tout, pour répondre à votre question, que le modèle britannique soit le bon modèle à poursuivre pour l'Union européenne. Je pense d'ailleurs que les États-Unis veulent nous pousser à un deal moins bon que le deal britannique. Et je pense que ça, c'est doublement inacceptable, à la fois économiquement, parce qu'on en souffrirait beaucoup à court terme, mais aussi politiquement, parce que je pense qu'on se poserait la question du sens de l'Union européenne si un club de 26 pays finit par avoir un deal moins bon que le deal britannique.
Mais justement,
nous applique des mesures excessives et injustifié, plus ça aura tendance, à mon avis, à réunir les pays de l'Union européenne. Dans la crise, mon expérience de plus de 30 ans à Bruxelles montre qu'il y a une certaine unité qui apparaît.
Ça avait été le cas en 2000.
Un peu moins difficile, il faut bien le reconnaître. Mais je voudrais me permettre de rajouter quelque chose sur la Chine. En réalité, le problème principal des déséquilibres dans le commerce mondial, c'est la Chine avec son système de capitalisme d'État, d'exportation. Et c'est le problème principal. Et en réalité, Trump, au lieu de faire ce qu'il a fait, aurait dû essayer, je vais prolonger ce qu'a dit Elvire, de créer une alliance pour tendre le bras aux Chinois et pour réformer l'Organisation mondiale du commerce. Mais il fait tout le contraire, puisqu'il nous traite, même à la limite, plus mal que les Chinois.
Ouais, européenne peut jouer ce rôle de négociateur politique, pourvu aussi qu'elle s'autorise à sortir du cadre purement commercial. Parce qu'en réalité, ce qu'on voit avec cette négociation, si on peut appeler ça comme ça, c'est qu'elle déborde très largement la question commerciale. Elle touche aux affaires géopolitiques, on en a parlé avec la question ukrainienne. Mais au fond...
Ça, c'est de la politique, donc pas de technicien en économie, mais plutôt de la politique.
Mais je pense que c'est une illusion de croire que la Commission européenne n'est qu'une organe de technocrate. La Commission européenne est le pouvoir exécutif européen, ou en tout cas, elle doit l'être, et elle a été fondée de pouvoir pour ça.
Et c'est politique par définition, et qu'au Conseil, on a un problème d'unité. C'est-à-dire, qu'est-ce que veut dire vouloir envoyer une équipe pour négocier ? Le problème, c'est l'unité au niveau du Conseil. Et on a vu déjà en quelques jours, avec l'annonce des 30%, quand même une réaction qui va vers plus d'unité. On a encore de la résistance côté allemand, côté italien, côté irlandais, qui sont les pays les plus exposés aux droits de douane de Donald Trump.
L'Allemagne, en l'occurrence,
L'Allemagne, énormément. Et donc là, l'inquiétude, en fait, qui est suggérée par Thierry Breton, c'est d'avoir une Ursula von der Leyen qui soit vraiment sous influence de l'industrie allemande qui est aux abois dans cette situation.
En tout cas, il fait savoir qu'il allait renchérir les droits de douane augmenteraient de 30% supplémentaires, dit-il. Est-ce que c'est un nouveau coup de bluff ou est-ce qu'il pourrait vraiment le faire ?
Je n'ai pas dit exactement 30% supplémentaires, du montant équivalent à
son coup d'allant. Voilà,
ceci dit, ça ne change absolument rien puisque 30% c'est déjà prohibitif.
Oui.
Comme l'a dit le commissaire Šefčovič. D'ailleurs, le commissaire Šefčovič, c'est le niveau politique. Donc, excusez-moi, mais Thierry Breton raconte n'importe quoi à ce sujet. Donc, en réalité, c'est le niveau politique. Bien sûr, lui, le rêve de Thierry Breton, il veut régler ses comptes avec Mme von der Leyen. Et son rêve, c'est que Mme von der Leyen se fasse humilier dans le bureau ovale par Donald Trump.
Chacun ses rêves.